Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants et qui plus est aussi la toute dernière chronique de la saison. Au terme de cette saison radiophonique, que d'émotions. Je ne pouvais imaginer un tel chemin parcouru en revenant en studio à la fin du mois d'août 2023. Après deux rentrées littéraires, une semaine spéciale autour des prix de l'automne, deux festivals, pas moins de 21 auteurs reçus à ce micro et des dizaines de chroniques, vient enfin le jour de cette dernière chronique littéraire de la saison. Et pour terminer notre année, je vous propose un entretien exceptionnel autour d'une grande bande dessinée. Et pour animer cette émission, je ne suis pas seul aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour à toi Thomas.
Merci d'être avec nous, avec moi, surtout aujourd'hui, avec notre auteur, pour pouvoir faire ensemble cette émission.
Ouais, je suis ravi d'être là avec toi Thomas pour animer cette petite interview avec...
Notre invité. Il faut aussi préciser, je le précise tout de suite, que nous sommes dans les locaux de Radio Campus Paris. Nous sommes chaleureusement reçus par nos collègues et on les remercie encore. Nous allons remonter nos montres de plus ou moins 80 ans. Je dis plus ou moins car les faits racontés dans cette bande dessinée ont encore trouvé un important écho au tout début de cette année. 80 ans déjà, 80 ans que cela passe vite. 80 ans. Notre bande dessinée du jour s'intitule Missak, Méliné et le groupe Manoukian. Elle est publiée depuis le 16 février 2024 aux éditions Dupuis, signée par un duo de dessinateurs, Jean-David Morvan et Thomas Tcherkézian. Pour parler de cette bande dessinée aujourd'hui avec Rémi, nous avons le grand plaisir de recevoir un des deux auteurs de notre texte du jour. Bonjour Thomas Tcherkézian.
Bonjour Thomas, bonjour Rémi. Je suis vraiment ravi d'être là, merci pour l'invitation et je pense qu'on est bien parti pour une petite heure pour... s'éclater en interview.
Absolument, plaisir partagé de pouvoir vous recevoir ensemble à ce micro pour parler de votre premier ouvrage, cette grande bande dessinée. Amis auditeurs et auditrices, sortez vos marque-pages du souvenir et de l'espoir. Nous accompagnons aujourd'hui le groupe Manoukian dans la résistance à travers Paris. C'est en 1906 que Missak Manoukian voit le jour dans la ville d'Adyaman de l'Empire ottoman, située au centre de l'actuelle Turquie. Au milieu de la Première Guerre mondiale qui déchire l'Europe, l'Empire ottoman opère dans ses frontières un mouvement génocidaire. Le ministère de l'Intérieur ordonne de nombreuses arrestations des élites arméniennes en vue de les exécuter. Une rumeur s'est propagée dans l'Empire ottoman, une rumeur qui dénonçait les Arméniens soupçonnés de collaborer avec l'ennemi russe. Les populations arméniennes, jetées sur les routes pour de grands déplacements, savent très bien quel sort les attend. Dans cette sombre période, la famille de Missak Manoukian va être décimée. Seul survivant, avec son frère Garabed, Missak Manoukian sera sauvé par une famille kurde avant que les autorités remettent la main sur eux. Après avoir été travailleur manuel, les deux frères Manoukian obtiennent un passeport Nansen pour rejoindre la France. En 1925, les frères Manoukian débarquent à Marseille, où ils vont enchaîner les petits boulots. Alors que son frère se repose un peu, Missak, lui, rêve de culture, de vie, d'échange. En somme, il rêve de Paris. C'est donc dans la capitale française, entre les cours en auditeur libre à la Sorbonne et les premiers amours avec une certaine Mélinée, que Missak Manoukian va prendre son aise pour sa vie. Une vie qui sera bientôt secouée par de violents changements en Europe comme en France. Voilà pour une partie de l'histoire de Missak Manoukian. Avant que l'on la développe un peu plus ensemble, cher Thomas, j'aimerais que l'on puisse un peu plus en savoir sur vous, sur votre histoire. Vous avez 23 ans, vous êtes jeune bédéiste et illustrateur. Avant d'être sur ce projet de création de cette bande dessinée, quel était votre rapport, ou peut-être même votre connaissance de Missak Manoukian et de son groupe ?
Eh bien finalement, pas grand-chose. C'est pour ça que je dis souvent que je suis très heureux d'avoir bossé sur ce bouquin, parce que ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Je pense que le plaisir de travailler avec JD aurait été un peu moindre si j'avais connu déjà l'histoire sur le bout des doigts. Je pense qu'il y a une vraie part d'extase à chaque fois qu'on apprend une chose puis une autre sur l'histoire de Manoukian, sur le groupe des résistants de la FTP-MOI ou même sur l'histoire du génocide des Arméniens. Donc j'en connaissais pas grand-chose, je connaissais surtout l'affiche rouge qui était quand même une image emblématique un peu de la résistance parisienne. On l'a vu très certainement comme on est de la même génération en cours d'histoire. C'est une image qui est restée, je pense, gravée dans nos mémoires pendant un bon moment, mais Missak Manouchian en tant que tel, à part son nom, son histoire même, je ne la connaissais pas tant que ça.
Et comment ça a commencé le dessin? Quelles ont été vos études?
Le dessin, aussi loin que je m'en souvienne, je pense que ça fait partie de moi. Quand on est petit à la maternelle, je pense que tout le monde dessine d'une certaine manière. Et puis en grandissant, il y en a certains qui arrêtent et puis il y en a d'autres qui continuent. Donc moi, j'ai continué. J'ai commencé à prendre ça de plus en plus au sérieux parce que c'était une vraie passion que je développais au quotidien. Jusqu'à en 2018, après mon bac, me dire bah, j'aimerais bien faire de ça mon métier. Et donc du coup, poursuivre mes études dans le milieu artistique, j'aurais pu faire plein d'autres études, je pense, mais j'aurais eu des regrets terribles, je pense, à 30, 40 ou 50 ans, en regardant en arrière et en me disant, j'aurais pu faire de la BD, j'aurais pu faire de l'illustration. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais et je pense que j'ai vraiment absolument aucun regret d'avoir choisi ce parcours. Donc pour répondre à ta question sur les études, j'ai fait 4 ans d'études à Émile Cole, à Lyon, qui est une école de dessin technique, académique, où j'ai appris les... on va dire, j'ai perfectionner les bases du dessin, que ce soit de l'anatomie, du modèle vivant, de la perspective, hein, pour avoir les outils nécessaires pour devenir un travailleur dans le monde de l'édition.
Comment elle se fait cette transition entre le dessin, le hobby, et le dessin, vous en faites votre métier et vous l'étudiez?
Alors, c'est pas évident. Honnêtement, j'entends beaucoup de personnes, que ce soit dans le milieu de l'art ou dans n'importe quel milieu, hein, ça peut être le milieu du sport par exemple, qui parlent du fait que le fait qu'ils travaillent dans un métier passion, ça leur enlève toute forme de la pression de se dire à un moment donné, je suis en train de faire un travail dur, c'est un vrai labeur de me lever tous les jours, et un peu ce truc-là de métier passion, on n'a pas l'impression de travailler. Je ne suis pas d'accord. Le hobby, certes, on n'a pas l'impression de travailler, mais quand tu dois rapporter de l'argent, quand tu dois avoir une échéance, quand tu dois avoir un vrai gage de qualité que tu dois amener au quotidien, là, la chose, elle change et elle devient vraiment... professionnel. Donc travailler, c'est vraiment pas évident dans le dessin, surtout que il y a ce poids de la passion qui reste et qui nous, des fois, donne une forme de culpabilité. Des fois, on n'a pas envie de dessiner, c'est la réalité, tu vois. Donc ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi à m'y accoutumer. Aujourd'hui, tu vois, j'arrive à trouver un rythme assez cool entre dessin et vie perso, et c'est quelque chose que je pense qui vient avec le temps.
Et comment on en vient justement à co-diriger un projet avec Jean-David Morvan?
Je pense qu'il y a une petite part quand même de chance. J'ai arrêté au bout de 4 ans mes études, j'aurais pu faire la 5e année, j'aurais peut-être jamais eu cette opportunité. J'ai un nom de famille arménien, donc j'aurais jamais eu ce nom de famille arménien, j'aurais très certainement jamais bossé sur le projet. Mais en même temps, toute chance vient avec... toute chance est provoquée, donc je pense pas que ce soit uniquement lié à la chance. Il y a aussi le fait que j'ai posté mon travail en ligne, qu'il ait du moins eu une valeur aux yeux de J.D. Morvan pour qu'il puisse me contacter. C'est un peu, c'est un peu les planètes qui se sont alignées, on va dire. C'est difficile en même temps, avoir un excellent projet entre les mains, c'est pas que lié à ton niveau technique, c'est pas que lié à ton entourage, c'est pas que lié, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'à un moment donné, ça tombe bien. Et honnêtement, c'est ce qui s'est passé. Donc,
Vous avez des origines arméniennes, vous venez de l'évoquer. Ouais. Je suppose que de vous avoir plongé dans la vie de Missak Manoukian, notamment avec la question historique et aussi du génocide arménien, vous a aussi beaucoup touché.
Exactement. Les origines arméniennes, c'est, moi je le vois dans ma famille du côté de mon père, donc ma famille paternelle, c'est très important. Il y a de l'implication dans les associations, dans la culture, la danse, la nourriture, etc. Donc c'est un truc que je vivais déjà du côté de mon père, mais étant donné que j'étais très jeune, la curiosité s'arrêtait là. Et avec l'histoire de Missak Manouchian, ça a vraiment fait une forme de déclic, une ouverture de porte par rapport à ma relation entre mes origines et moi, entre d'où viennent mes arrière-grands-parents, ce qu'ils ont vécu, comment ils sont arrivés en France, etc. Et je pense que ça m'a permis de creuser un peu plus dans cette direction-là. Et encore aujourd'hui, je pense que je découvre des choses que j'aurais peut-être jamais découvertes si je n'avais pas bossé sur ce projet.
Est-ce qu'en travaillant sur ce projet précis de cette bande dessinée, vous avez eu peut-être le sentiment de vous identifier à Missak dans sa combativité, sa force de caractère?
Carrément, moi, c'est devenu un héros pour moi, Missak Manouchian, vraiment. Moi qui les connaissais si peu il y a 2 ans, aujourd'hui je pense que forcément son histoire elle est commune à celle de mes arrière-grands-parents, donc il y a déjà ce lien là qui est fait. Et puis c'est un vrai leader, même si il a été quand même à la tête d'un mouvement de résistance armée. Dans le fond, c'était un pacifiste, donc je le retrouve aussi dans ces valeurs là et il était quand même à la tête d'un groupe qui globalement correspond à mes valeurs, donc forcément je me suis identifié pleinement à Missak. Ouais.
C'est vos grands-parents qui sont rescapés du génocide?
Mes arrière-grands-parents.
Arrière-grands-parents. Ouais. Vous avez, quel genre de choses vous avez appris à travers son histoire, par rapport à votre histoire familiale?
Eh ben, j'ai appris d'où ils venaient. J'ai appris qu'ils ont eu à peu près le même parcours, qu'ils sont arrivés à Beyrouth eux aussi, que leurs sœurs sont parties aux États-Unis, puis les ont. En gros, il y a eu la diaspora, je l'ai apprise avec cette histoire de Missak Manouchian. Au début, je ne savais pas d'où venaient mes arrière-grands-parents précisément. Je ne savais pas l'histoire des fratries qui sont séparées, parce que forcément, la diaspora pousse à la séparation des familles. Et puis, j'ai posé des questions sur leur état d'esprit en arrivant en France. Le tabou qu'il y avait au sein des familles, le fait que les chamboulements traumatiques liés au génocide, ils étaient visibles quand on voyait les arrière-grands-parents qui arrivaient en France, qui avaient du mal à s'adapter, qui avaient du mal à reprendre une vie normale. Donc ça, c'est des choses que j'ai apprises en m'intéressant à l'histoire de ma famille.
Ouais, cette fratrie, elle s'est séparée en France. Arriver en France, c'est aller aux États-Unis.
Non, il y a du côté de ma grand-mère, la sœur de son père est partie aux États-Unis, puis l'a rejoint ensuite en France en revenant. Donc elle a pris le bateau pour les États-Unis. Il y a eu pas mal d'immigration vers les États-Unis. Puis quelques années plus tard, elle est revenue en France pour le rejoindre parce qu'elle ne trouvait pas de travail. C'est la Grande Dépression des années 20, donc des années 30, pardon.
Est-ce qu'en travaillant sur ce projet, vous vous êtes retourné vers votre famille pour poser plus de questions?
Ah ouais, carrément. Ouais, je me suis tourné vers mon père déjà. Et puis quand je voyais que certaines réponses, il ne les avait pas, je me suis tourné vers ma grand-mère. Et puis étant donné que c'est la dernière... C'est la personne la plus âgée que je connaisse dans ma famille du côté de mon père. C'était un peu le dernier bastion pour avoir les réponses que je voulais. Et elle n'est pas très bavarde, donc ça a été très très compliqué de trouver certaines réponses, mais j'en ai eu certaines, ouais.
Bah, tu vois, Thomas, on a la même histoire de famille avec Thomas, avec Manouchian. C'est magnifique.
J'aimerais que l'on marque un petit temps pour que l'on entende ensemble une très belle chanson qui traduit, je crois, une certaine émotion de ce que nous commençons tout juste à évoquer aujourd'hui.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments, c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi, pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini, plus tard, en y rêvant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline. La nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ah, mon amour, ma mélinée, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. Vingt et trois qui criaient la France en s'abattant.
L'affiche rouge, chantée ici par le groupe Feu Chatterton, précisément par Arthur Teboul. Le titre est interprété ici lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak et Méliné Manoukian, ainsi que tout le groupe, le mercredi 21 février 2024, soit 80 ans après leur exécution au Mont-Valérien en 1944. Ce titre est bien sûr à retrouver sous forme d'EP pour les plus chanceux d'entre vous chez nos disquaires et encore bien sûr disponible sur toutes les plateformes de streaming. Aujourd'hui, c'est la dernière chronique de l'année de la librairie des étudiants. Nous sommes toujours avec Rémi, qui est là bien sûr, et avec le jeune auteur de bande dessinée Thomas Tcherkézian, l'un des deux dessinateurs de Missak Méliné et le groupe Manoukian, bande dessinée parue aux éditions Dupuis le 16 février dernier. Thomas, on se souvient tous de cette cérémonie extraordinaire qui a été réalisée en février autour du Panthéon pour l'entrée de Missak et Méliné Manoukian dans ce lieu hautement symbolique, ainsi que pour tout le groupe qui les a entourés. Quel était votre sentiment en voyant cette cérémonie d'hommage rendue au Panthéon, surtout après avoir travaillé sur ce projet ?
C'est un peu la concrétisation, j'ai l'impression, d'un long travail. Certes, c'est la bande dessinée, mais c'est aussi la panthéonisation. On l'a fait dans ce but-là aussi, qu'elle représente au mieux cet événement quand même assez fort. Donc j'ai eu un vrai sentiment de connaître personnellement Missak, Méliné et les 23 qui ont été cités au début de la panthéonisation en bas de la rue Soufflot. Donc forcément, moi j'avais un sentiment particulier de me dire j'ai l'impression que c'est mes camarades, alors que techniquement je les ai jamais connus, ils sont morts il y a 80 ans. Mais il y a eu un vrai sentiment de proximité par rapport aux panthéonisés et à ceux qui ont été représentés. Et puis aussi, c'est quand même la panthéonisation des premières fois. Donc il y a eu la première fois qu'un étranger était panthéonisé, apatride, il n'avait même pas de nationalité. Première fois qu'un communiste était panthéonisé. Donc je pense qu'en France, ça a eu une résonance particulière, je pense, pour tout un chacun. Et moi, j'ai quand même eu beaucoup d'émotions en regardant cette cérémonie du début à la fin.
Cette chanson avait été déjà interprétée par Léo Ferré en 1961, une chanson portée par les mots du poète Louis Aragon. Comment ces mots résonnent-ils auprès de vous ?
Alors je me souviens que la première fois que je l'ai écouté, c'est au tout début du projet. Donc c'est-à-dire que JD nous a envoyé un lien, il nous a dit qu'il faut l'écouter parce que forcément quand on travaille sur Misak Manouchian, quand on travaille sur la fiche rouge, c'est impossible de passer au travers. Et d'un coup les frissons quoi, la prestation de Léo Ferré est incroyable, les paroles m'ont touché en plein cœur. En vrai que sur Léo Ferré au Feu Chatterton récemment, avec la panthéonisation, les deux prestations sont vraiment assez incroyables. Et j'ai l'impression que ça fait l'unanimité, quand je suis en dédicace fréquemment, les gens me disent vraiment cette interprétation m'a donné des frissons, donc je pense que auprès de chaque personne qui l'a écouté, ça a été un vrai écho.
J'aimerais que l'on se penche quand même sur la réalisation de cette grande bande dessinée. Il y a eu un important travail de recherche, de documentation sur la vie de Misak, de Méliné et du groupe Manouchian. Ce qui est aussi très important de souligner concernant cette bande dessinée, c'est que bien qu'elle raconte une histoire précise, la recherche historique est encore en train d'apprendre de nombreuses choses.
Il y a des carnets personnels de Misak qui ont été découverts en Arménie et qui sont traduits en ce moment. Donc il y a des informations qu'on est en train d'apprendre encore aujourd'hui. Comme je dis toujours, l'histoire n'est jamais figée. Hein. L'histoire, elle continue d'évoluer en fonction de ce qu'on apprend d'elle. Et nous qui pouvions penser que l'histoire de Misak était totalement figée dans le temps parce qu'on avait toutes ces informations, c'est totalement faux. Il faut savoir qu'il est issu du génocide des Arméniens. C'est pas énormément sourcé, donc forcément il y a des choses qu'on continue d'apprendre dessus. Et il est issu aussi de la résistance parisienne, qui a pour principe même d'être secret. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui continue d'être approfondi aujourd'hui par les historiens. Je pense c'est la première information qui me vient, mais je pense à son âge, on pensait qu'il était né en 1906, mais en fait il était né en 1909, 3 ans plus tard. Ça c'est quelque chose qu'on a appris il y a quelques semaines, et en fait il aurait été 3 ans plus jeune, et il avait volontairement modifié son âge de 3 ans pour pouvoir travailler en arrivant en France en étant majeur. Donc je pense à ça notamment parce que c'est un élément hyper symbolique du fait que l'histoire n'est jamais figée et qu'on continue d'apprendre.
Est-ce que vous pouvez nous parler donc après de son arrivée en France, son engagement peut-être auprès du groupe des FTP-MOI ? Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
Misak Manouchian, il était très engagé de base, donc forcément il est rentré au Parti communiste en 1936 ou 37, il me semble, et forcément il devait passer par la FTP-MOI. Alors les MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée, donc en gros une association qui avait pour but de mettre en relation des étrangers qui arrivaient sur le territoire qui ne parlaient pas forcément français. C'était plus facile d'avoir ce lien-là, c'est une forme de communautarisme, mais pour s'élever. Et la FTP, c'est les francs-tireurs et partisans, qui est la main armée du Parti communiste. Donc forcément, les étrangers qui luttaient contre l'occupant allemand tout en étant communistes faisaient partie naturellement des FTP-MOI.
Comment s'est déroulée la création de cette bande dessinée ? Vous avez été encadré par une équipe. Comment tout ça s'est déroulé chez Dupuis ?
L'idée de base vient de JD. Déjà en décembre 2022, il avait connaissance du fait que la panthéonisation allait avoir lieu le 21 février 2024. Donc il avait quand même un petit coup d'avance par rapport à l'événement. Et puis il voulait très rapidement mettre en place le projet. Déjà en parlant chez Dupuis, ça a été accepté très rapidement parce que je pense que JD, avec son palmarès au niveau de la bande dessinée résistante et de la Seconde Guerre mondiale, il peut proposer n'importe quel projet, on lui acceptera les yeux fermés. Et puis ça semble être une excellente idée, hein. La médiatisation qui allait avoir lieu en 2024, forcément ça pouvait nourrir des vraies envies chez Dupuis. Et puis il devait chercher un dessinateur pour bosser sur le projet, et il avait comme idée de bosser avec un dessinateur d'origine arménienne parce que pour lui, ça faisait plus sens. Donc il a monté sa Dream Team et il s'est dit, bon, maintenant, faut taffer. On a quand même assez peu de temps pour proposer le projet. On a jusqu'à à peu près décembre 2023, ce qui nous fait un peu moins d'1 an de travail. Et on s'est rendu compte que ça allait être vraiment très short. Donc on a encore monté une autre équipe avec, je ne sais pas si vous avez vu en ouvrant le bouquin, mais il y a quand même une liste assez complète de dessinateurs, de coloristes, de lettreurs, de scénaristes pour bosser sur le projet. On est une vraie équipe. En vrai, un groupe pour travailler sur un groupe, c'est quand même assez logique, mais on a été pas mal. On a commencé à faire la première planche début juin et on a terminé début décembre, ce qui fait à peu près 6 mois de travail. C'est très court, c'est très intense, mais on est quand même assez content d'avoir réaliser ce projet.
Et quelle a été la difficulté de ce projet avec l'avancée des recherches en même temps que la réalisation ?
On a eu la chance de bosser main dans la main avec le Musée de la Résistance Nationale, donc avec les historiens Thomas Fontaine et le fils de Joseph Epstein, qui est directeur du Musée de la Résistance. Donc, travailler des historiens, c'est un peu une valeur sûre pour ne pas faire d'erreur, ou du moins en faire le moins possible, et d'avoir une vraie vraisemblabilité historique. Donc de bosser avec Thomas Fontaine, c'est lui qui a d'ailleurs écrit le carnet historique à la fin du bouquin, ça nous a permis d'avoir une véracité historique, de corriger en fonction de l'avancée du bouquin par rapport aux découvertes historiques. D'ailleurs, on a même fait une petite astérisque page 27. En gros, Garabet, donc le frère de Missak Manouchian, est arrivé en même temps que lui à Marseille, mais un an avant. Donc on s'en est rendu compte, mais les pages étaient déjà finies, on s'est dit... Bon, on va rajouter cette petite astérisque, c'est quand même nécessaire par rapport au lecteur qui soit pas faussé. Ouais.
Vous vous souvenez d'un moment d'un moment de travail où au final il a fallu tout refaire à cause de ça ?
Non. Non. À part au tout début, forcément il y a des pages tests que j'ai dû refaire, mais l'échéance était tellement proche qu'on n'a pas eu le temps de refaire des passages, donc en général on a supprimé aucune page. D'où cet astérix d'ailleurs, sinon si on avait eu le temps on l'aurait refaite, mais non, j'en ai pas le souvenir. Non.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez travaillé. Dessiné tout à la main ou vous avez utilisé l'ordinateur?
On a dessiné l'ordinateur et on a dessiné à la main.
Ok,
parce que c'est pas incompatible. Mais oui, on a privilégié l'outil numérique parce qu'on était quand même plusieurs dessinateurs à bosser, plus le coloriste. C'était beaucoup plus pratique pour le transfert de fichiers, pour la coordination globale. On avait un groupe Messenger sur lequel on pouvait s'envoyer les fichiers, les télécharger, travailler dessus, etc. Même si je suis un fervent défenseur du traditionnel, du dessin sur papier, il n'y avait pas le choix. Parfois, il faut savoir mettre les compromis, exactement. Avoir des compromis. Et celui de travailler en numérique, ça a été l'un d'eux. On s'est donné quand même à fond pour avoir un rendu qualitatif. Et je pense que le but est...
Et atteint, bien sûr.
Et donc, vous nous proposez au fil de notre lecture les portraits des membres du groupe Manouchian en nous expliquant brièvement leur parcours. Comment vous est venue cette idée ?
C'est JD qui a eu l'idée. Il a pour un peu, pour Tic, qui est un excellent Tic, hein, mais de vouloir apporter une forme d'innovation dans chacun de ses bouquins. Pourtant, il en sort pas mal. Et sur ce bouquin-là, il a voulu essayer l'implantation dans la bande dessinée de portraits, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Et ça permettait en même temps d'avoir un vrai poids de chaque résistant dans la bande dessinée, qu'il ne soit pas oublié au détour d'une page, parce qu'en général, en bande dessinée ou dans n'importe quel art, il y a des personnages secondaires qui peuvent être oubliés très rapidement, et de faire des portraits, donc là, il y en a une trentaine, ça permettait de les mettre tous sur le même pied d'égalité, et en même temps de pouvoir raconter leur vie qui reste quand même hyper intéressante à écouter, enfin à lire plutôt, et on est à la radio, c'est pour ça que le petit lapsus, et voilà, donc c'était ça, c'est son initiative à lui.
Et petite précision à nos amis auditeurs, les portraits ressemblent à des portraits Harcourt.
Ouais. Du studio Harcourt, des photographies,
ouais.
C'est comme des portraits qui sont même magnifiés, j'ai envie de dire, parce qu'on retrouve à la fin dans le cahier historique de Thomas Fontaine justement, l'ensemble des portraits des 23.
C'est exactement ça. On avait la volonté de les starifier un peu. Quand on voit les portraits qui ont été pris donc, dans le carnet historique, qui ont été pris à la prison de Fresnes après leur arrestation, ils sont sacrément amochés, ils ont perdu du poids, ils sont pris en général dans des sales conditions. Donc, ce n'était pas du tout à leur avantage. Et en les starifiant avec, exactement comme tu as dit Rémi, ce côté Harcourt en noir et blanc, ça permettait de leur redonner un peu le charisme qu'on aurait voulu leur donner à cette époque-là.
Et comment arrive-t-on, avec le dessin, à retranscrire une ambiance singulière? Et même, comment vous faites pour transmettre des émotions?
Transmettre des émotions...
Moi, je pense notamment, surtout par rapport aux émotions... Bon, tout le monde connaît la fin tragique de ce groupe. Justement, quand vous dessinez ce jour de l'exécution du groupe, j'ai trouvé ça, c'est des pages qui sont terribles, plus que tout le reste qu'on peut voir avant. Et j'ai trouvé que dans les cartouches, dans les planches, il y a cet imposant silence. Alors peut-être je me suis trop projeté dans cette... je me suis trop immergé dans la bande dessinée, mais j'ai trouvé qu'il y avait un silence immense. Donc forcément une émotion qui ressort de ce dessin. Donc est-ce que c'est conscient quand vous dessinez devant l'ordinateur ou pas du tout ?
Si, si, carrément. Il faut savoir déjà que avant c'est ce passage de l'exécution au Mont-Valérien, il y a beaucoup de scènes d'action.
Oui.
Donc il y a beaucoup de petites cases, de petits encarts avec énormément de mouvements, énormément d'armes, de feux, d'explosions, etc. Donc forcément ça comble l'image. Et en arrivant à cette scène de l'exécution au Mont-Valérien, elle est plus contemplative. Donc il y a des cases de paysage, il y a des doubles pages, il y a des cases beaucoup plus grandes, donc c'est beaucoup plus aéré, ça donne cette impression de silence, il n'y a pas de dialogue du tout. Et puis les personnages sont attachés à des poteaux, donc beaucoup plus statiques, donc ça donne une vraie impression comme ça de silence, de calme. Et puis moi qui ai visité le Mont-Valérien, j'ai l'impression qu'on l'a très bien retranscrit, parce que c'est exactement l'impression qu'on a. C'est en hauteur assurée, donc en banlieue parisienne, c'est loin de l'agitation, et il y a un vrai calme planant au Mont-Valérien qui, ma foi, est bien retranscrit dans le bouquin.
J'aime bien ton expression qui est le dessin sonore.
Oui, mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti.
Je ressens la même chose, et dans ces cases, on a vraiment l'impression qu'on entend le vent qui siffle.
Ouais.
Et ça fait aussi la même chose, justement, pour les scènes d'action dont vous parliez. Vous avez en plus magnifié sur certaines... Lorsque le groupe Manoukian fait certains sabotages, les pages sont noires, finalement. Vos cartouches apparaissent sur un fond noir, ce qui donne encore plus de force, je trouve, dans le dessin. Et effectivement, on tourne la page, on voit l'action et on entend le train exploser. Enfin, effectivement, pour moi, je trouve que c'est à la fois sonore parce qu'il y a l'explosion, comme le silence ou le vent qui siffle. Donc oui, là-dessus, je pouvais pas trop dire plus, je trouve.
Ouais, c'est ça.
On a le dessin à l'intérieur de la bande dessinée, au fil des pages, de la vie de Misak et du groupe. Mais il y a aussi la couverture de cette bande dessinée. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête quelques instants là-dessus, qu'on en parle. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affiche rouge. Vous avez complètement refondu l'affiche rouge. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Quelle a été la démarche ? Pourquoi avoir fait ça en guise d'ouverture à cette bande dessinée ?
Alors c'est marrant parce que forcément j'ai fait quelques tests avant, tests de couverture, avant cette version-là, qui n'était pas du tout liée à l'affiche rouge. Donc on a discuté avec JD, on s'est appelé, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant ? Ce qu'on voulait mettre en avant, c'était le couple de Misak et Méliné, c'était le fil rouge, le fil conducteur du bouquin. Et puis les représenter, ce serait assez fort par rapport au cadre de la panthéonisation. On partait vers cette voie-là. Et puis il y a notre éditeur qui nous appelle, Olivier Jalabert, et qui nous dit « Les gars, vous faites fausse route en fait. L'affiche rouge, elle est justement là pour marquer les esprits. Pourquoi vous reprenez pas cette imagerie-là ?» Et c'est ce qui marquera les lecteurs qui passeront en librairie, qui passeront à la FNAC, qui verront ça dans les vitrines. C'est l'imagerie qu'il faut pour faire le lien aussi avec la panthéonisation. Donc on est parti là-dessus, vraiment reprendre cette image du fond rouge, de l'espèce de V comme ça, de pointe qui est marquée par le groupe des FTP-MOI, et puis Misak en tête de groupe. Et puis je me suis dit aussi, ce serait quand même fort de les représenter en pied, plutôt que dans des cercles avec leurs portraits, armés, comme s'ils étaient prêts à lutter contre l'occupation allemande. Et au final, est sortie cette couverture. Globalement, elle a quand même été beaucoup appréciée. Je sais qu'elle a marqué, parce que dans des salons où les gens n'étaient même pas au courant forcément de que Dupuis avait sorti cette bande dessinée, certains l'ont acheté grâce à cette couverture en me disant elle m'a marqué, c'est un truc visuellement qui m'a percuté, et pourquoi pas l'acheter du coup.
Et il faut rappeler d'ailleurs que dès qu'on ouvre la bande dessinée, on tombe tout de suite sur l'affiche rouge, l'originale,
ouais,
qui avait été réalisée durant la Seconde Guerre mondiale. On va marquer un deuxième courte pause, le temps d'entendre quelques mots.
21 février 1944, Fresnes. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée. Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand ou contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment, comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari. Manouchian Michel. Janicht. PS, j'ai 15 000 francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armen.
Les mots de la dernière lettre de Missak Manoukian adressée à sa femme Mélinée, au moment où le résistant allait se faire fusiller avec les autres membres de son groupe au Mont Valérien le 21 février 1944. Les mots de cette lettre sont ici lus par Clearly Honegger. Cette lettre, nous la retrouvons dans les pages de votre bande dessinée, Thomas Tcherkessian, une bande dessinée co-signée avec Jean-David Morvan aux éditions Dupuis, publiée le 16 février dernier. Que dit-elle de si important, cette dernière lettre de Missak?
Elle dit quand même que, malgré le fait qu'il ait à son actif 153 attentats et qu'on puisse le voir comme... pas avec le recul, mais sur le moment, comme un terroriste immonde, sanguinaire, etc., il y a quand même, dans sa lettre, une forme de pacifisme, de pardon envers les gens qui ont été contre lui, on va dire, à part le traître dont il parle, qui est Davidovitch, mais contre le peuple allemand, il n'a aucune haine. Donc forcément, moi, je me projette à sa place et je me dis... qui aurait pu être aussi pacifiste à sa place, sachant qu'il allait être exécuté quelques heures après. Et en plus de ce pacifisme, il y a aussi une forme de lucidité absolument totale quelques heures avant de mourir, qui peut être assez surprenante. Il est clair, rationnel, lucide, tout au long de sa lettre, même à la fin, PS va avoir l'argent. Il y a une forme de clairvoyance dans sa lettre qui est assez choquante. On peut se dire qu'un mis à mort ou un exécuté peut avoir très peur, peut paniquer. En fait, pas du tout. Missak, il est serein.
Comment s'est fait le choix de retranscrire cette lettre?
Tu veux dire dans la bande dessinée? Alors c'est Mélinée qui la lit, en fait. Je ne sais plus quelle page. On la voit recevoir la lettre. Donc forcément, on a ce contre-champ un peu qu'on n'a pas ici, nous, quand on lit la lettre telle qu'elle est. On a ce contre-champ et on a pris ce parti pris là de le réaliser comme ça. Ça reste une part d'écriture, on va dire, purement narrative, purement romancée. Je ne sais pas si ça a été le cas tel qu'on l'a décrit, mais au moins ça nous donne cette troisième dimension là.
Est-ce que vous avez vu que depuis leur panthéonisation, il y a une exposition justement au Panthéon? Est-ce que vous y êtes allé?
Ah non, pas encore. Il y a une exposition aussi au Mont-Valérien.
D'accord.
Ouais, qui est en lien avec cette BD-là. Et c'est vrai qu'il y a une exposition au Panthéon depuis la panthéonisation et je n'y suis pas encore allé. D'ailleurs, on m'en a parlé vraiment la semaine dernière, samedi dernier, on m'a dit « Vous allez voir l'expo au Panthéon ?» J'ai dit « Pas encore et il faut absolument que je la voie. » Donc normalement, ça va se faire très prochainement.
Et je tiens à préciser aussi pour nos amis auditeurs parisiens et même pourquoi pas les touristes qui viendraient sur Paris que donc cette exposition se trouve dans la crypte du Panthéon. Elle est temporaire jusqu'au 8 septembre prochain. Et surtout, nous avons été assez frappés d'ailleurs avec Rémi en y allant avant-hier de nous retrouver justement devant cette dernière lettre de Missak Manoukian. Ça fait quand même une sensation très... Ouais, c'est vraiment prenant de se dire on est devant cette dernière lettre. C'est que ça fait quelque chose. Mmh. Cette lettre a donc été aussi adressée à une femme exceptionnelle, Mélinée, l'épouse de Missak. Elle est à la fois une figure de la résistance, un soutien, un personnage de l'ombre pour la lumière. En travaillant sur ce projet de bande dessinée avec Morvan, qu'est-ce que vous avez appris sur elle ?
Je ne connaissais pas Mélinée avant, donc j'ai tout appris de A à Z. Et puis je suis content quand même qu'on l'ait mise autant en avant, parce que c'est un personnage qui mérite sa place. Peut-être qu'elle n'était pas leader des FTP-MOI, peut-être qu'elle n'a pas autant de faits d'armes que Missak Manoukian, mais si Missak dédie sa dernière lettre à Mélinée, c'est pas un hasard. Je pense que si elle accompagne pour être panthéonisée, c'est pas non plus un hasard. Elle a eu son rôle dans la résistance et je pense que le fait qu'elle ait eu cette relation avec Missak lui a permis d'accomplir tout ce qu'elle a accompli.
Une résistance du coup qui se fait aussi avec les femmes, mm-hmm. ce qui n'était pas forcément précisé sur la fiche rouge à l'époque. Mm-hmm. C'est aussi la volonté de se remettre l'histoire dans le bon sens.
Absolument. Les femmes sont souvent oubliées, surtout dans la résistance, on n'en parle quasiment jamais. Alors qu'elles ont leur rôle, on a parlé de Mélinée, mais c'est le cas aussi pour Golda Bancik, qui a été exécutée à Stuttgart en 1943, qui a eu également son rôle dans la résistance. Je parle de ce bouquin-là, mais on peut penser aussi à Madeleine Riffaut. Donc J.D. Morvan a sorti une bande dessinée co-écrite avec Madeleine Riffaut, qui est une résistante encore vivante, qui va avoir 100 ans en août, et qui donc du coup raconte son périple en tant que résistance, dans les années 40. Et ça nous permet de nous rendre compte que oui, les femmes avaient leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale.
Dans cette bande dessinée, vous nous racontez l'histoire de Missak Manoukian, mais pas que. Vous nous racontez aussi l'héroïsme dont sont pétris ces hommes et ces femmes, et puis l'amour, tout comme l'humour. Était-ce aussi pour nous rappeler qu'ils étaient des hommes et des femmes, comme tout le monde, avant de devenir des résistants ?
C'est ça. On a volontairement parlé des faits d'armes qui sont recensés, donc les attentats, les déraillements, etc. Mais on peut voir aussi, en parlant de Missak et Mélinée, leur quotidien de personnes comme vous et moi, leur quotidien, donc les scènes de ménage, leurs scènes d'intimité. On peut les voir dans leur plus forte intimité. Je pense que ça nous permet de nous rapprocher d'eux, de nous identifier. Et c'est pas un hasard que JD ait décidé d'écrire ces scènes-là. Je pense que c'est toujours bien de rappeler que les héros ne sont pas juste des héros, ce sont aussi des hommes et des femmes, et que l'héroïsme passe avant tout par un fort entourage et des fortes relations, et une forme d'humanité la plus profonde.
À la fin de cette bande dessinée, on en a parlé tout à l'heure, il y a des pages historiques réalisées par Thomas Fontaine, un dossier très complet autour de cette période historique très importante. Est-ce que vous pouvez quand même nous en dire quelques mots ?
Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à bosser avec Thomas Fontaine, qui est historien au Musée de la Résistance Nationale. C'est impossible de bosser sur un bouquin historique sans bosser avec des historiens. Il faut avoir l'humilité de se dire à un moment donné, je ne connais pas l'histoire sur le bout des doigts et il faut que je me réfère à des gens qui sont compétents, à savoir des historiens. Il est assez complet parce qu'il permet d'avoir pas mal de photos d'archives, pas mal de documents qui ne sont pas présents dans la BD. Je pense aux pages de filature, beaucoup de contexte aussi. L'explication de qu'est-ce que sont les FTP-MOI, que sont les brigades spéciales, donc la police française, comment s'est déroulée la filature. Il ajoute des détails en fait aux gourmands qui ont apprécié la BD et qui désirent en savoir plus.
La littérature, la musique et les documentaires sont très nombreux autour des actions et de la résistance de Missak et de son groupe. Je vous invite, amis auditeurs et auditrices, à aller visionner plein de documentaires. Il y en a un qui s'appelle aussi Missak et ceux de la fiche rouge, disponible sur la plateforme France.tv, et à lire également la poésie de Missak Manoukian dans son recueil « Ivre d'un grand rêve de liberté », une édition bilingue proposée par les éditions Point. Missak, Méliné, le groupe Manoukian, une superbe bande dessinée parue aux éditions Dupuis depuis février 2024, une bande dessinée co-signée par Jean-David Morvan et Thomas Tcherkezian. Merci à vous, Thomas, d'être venu à ce micro aujourd'hui.
Merci à tous les deux, c'était super.
Je suis très heureux d'avoir pu vous recevoir. Merci aussi à toi, Rémi.
Merci à toi, Thomas, c'était un plaisir.
Plaisir partagé. Avant de conclure cette dernière chronique de la saison, je veux aussi remercier les équipes de Radio Campus Paris 93.9 de nous avoir reçus dans leurs locaux. Et surtout un merci spécial pour Mickaël qui est aujourd'hui à la technique. Amis auditeurs et auditrices, nous voilà arrivés au bout de nos lectures de cette saison. Vient alors le moment des remerciements. Et je veux commencer en tout premier par remercier les équipes de Radio Campus Grenoble, ces hommes et ces femmes de l'ombre pour avoir été à mes côtés tout au long de cette année riche en émotions. Claire-Li, Louis, Rémi qui est à mes côtés, Alice ainsi que tous les autres bénévoles. Merci aux nombreux auteurs qui sont venus à ce micro pour cette confiance singulière qu'ils m'ont accordée le temps d'un entretien. Merci aux directeurs des festivals littéraires, aux libraires, pour leur confiance et leur soutien qui me sont tout aussi précieux. Et puis aussi, merci à vous, amis auditeurs et auditrices. Merci pour vos très nombreux mots reçus par la page Instagram de l'émission, pour ces échanges enflammés sur les livres au détour d'une rue ou d'un café à Paris. C'est déjà arrivé. Vous êtes aussi ces soutiens de l'ombre que j'aime tant. Cette chronique est la dernière de l'année, de la saison, et pour autant, je vous laisse durant cet été avec cette petite série d'entretiens que j'ai réalisée avec des libraires, que vous aurez l'occasion de retrouver chaque mercredi à 11h jusqu'à la rentrée prochaine, le mercredi 4 septembre 2024. D'ici là, je me permets de prendre quelques vacances radiophoniques. Je n'ai pas pu tout lire, pas pu tout vous dire, mais qu'importe. J'emporte avec moi dans ces prochains jours ces milliers de souvenirs dus à ces rencontres improbables, ces heures passées dans les trains, ces fous rires et ces déceptions. Au vu de cette nouvelle saison qui s'achève, une fois de plus, je fais ce constat que jamais je n'aurais pu imaginer faire tant de choses en venant la première fois devant un micro. Au long de ces nuits blanches et ces journées à rallonge sur le fil des rails des trains, au rythme des pages tournées et de mes marque-pages écornées par le temps et l'usure, je ne vois qu'une seule chose superbe, une passion. Je souhaite à chacun d'entre vous de la trouver cette passion et de vous y engouffrer à corps perdu. Cette chronique du jour est la dernière de l'année. Bien sûr, nous nous retrouverons en septembre devant d'autres livres, avec d'autres auteurs en face de moi, d'autres mots, d'autres vies, d'autres chemins à raconter. D'ici là, je vous souhaite de passer un bel été, du courage à celles et ceux qui, comme moi, vont travailler, de l'évasion pour ceux qui voyagent. En somme, je vous souhaite de baigner dans ce bonheur éphémère que l'on constate presque amèrement une fois qu'il est passé, un peu comme aujourd'hui. Passez un bel été, entouré de vos proches, de vos amis, de votre famille, et surtout n'oubliez pas, de temps à autre, de parcourir quelques pages. Je vous souhaite de belles lectures. Merci.